أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On va parler aujourd'hui de la grande bataille des fossés. غزوة الخندق. Il a eu lieu à Shawwal en l'année 5 de l'Hégire. Après les différentes défaites qu'ont infligées les musulmans aux mécréants, Quraysh a été touché dans son honneur, surtout dans Badr Thaniya, la deuxième Badr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relevé le défi, mais Abu Sufyan, il s'est retourné chez lui et il n'a pas été à l'endroit, il n'a pas été au rendez-vous. C'était une défaite morale de Abu Sufyan. Bani Qaynuqa expulsé. Bani Nadir expulsé. Ghatafan touché dans son honneur. Bani Mustaliq. Les mécréants, ils s'aperçurent qu'ils ne peuvent pas étouffer l'islam que s'ils se regroupent, que s'ils forment un seul bloc. Mais dispersés, des tribus dispersées, ils ne peuvent pas tenir tête aux musulmans. Les premiers à avoir cette idée, c'est-à-dire de regrouper différentes tribus, fut qui? Les chefs de Bani Nadir, les juifs de Bani Nadir. Je sais que les Bani Nadir ont été expulsés de Médine, et c'est leur chef, comme Salam ibn Abi al-Huqayq, Huyay ibn Akhtab, et d'autres, Kinanat ibn Rabi', ils formèrent une délégation et partirent au début la tournée diplomatique, si vous voulez. Ils sont partis à la Mecque voir les Quraysh, parce que c'est les Quraysh les plus grands ennemis et les plus connaisseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et alors ils allèrent les voir pour les rallier à leur cause et bien sûr les coaliser, former le Hizb, les coalisés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Quraishites étaient aussi disposés à se venger pour les humiliations qu'ils avaient essuyées. Ils ont répondu favorablement, ils ont dit d'accord, on est d'accord, nous sommes avec vous. Et ils ont dit aussi que les hommes les plus chers pour nous sont ceux qui combattent avec nous, Mohammed et ses compagnons. Et ils eurent l'idée de profiter de l'occasion pour demander aux juifs ce qu'ils pensaient du bien fondé de leur conflit avec le fondateur de la nouvelle religion, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien fondé. Et ils ont dit, hommes juifs, vous êtes des gens de la première écriture, et vous êtes des hommes, vous avez la science. Dites-nous, quelle est notre position vis-à-vis de Mohammed? Notre religion est-elle meilleure ou la sienne? Ils ont posé cette question aux grands notables juifs. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, votre religion est meilleure. Votre religion, la religion, l'idolâtrie a dit, elle est meilleure que la sienne, et vous êtes plus proche de la vérité qu'il ne l'est. Subhanallah. Ils confirment shirk. Ils confirment l'idolâtrie, l'adoration des statues. Et ils savent, alors qu'ils savent dans leur écriture, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est signalé dans la Torah et dans l'évangile. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. Dans sourate An-Nisa', Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Il croit au Jibte, le Jibte ça veut dire la magie, la sorcellerie, et au Tarot, ça veut dire les autres, les fausses divinités, et disent aux impies qu'ils sont dans une meilleure voie que ceux qui ont cru. Ceux-là sont ceux qu'Allah a damnés, et celui qu'Allah a maudit, tu ne lui trouveras point de secours. Oulaïka alladhina la'anahum Allah, wa man yala'anillahu falan tajida lahu nasira. Le hadith, la version, c'est une version d'Ibn Hisham, il est rapporté également par l'imam Suyuti et par l'imam Al-Haythami, et les hommes de la chaîne de transmission de cette histoire, ce sont des hommes sûrs, c'est-à-dire Isnad Rijal Wasiqat. subhanallah, il confirme l'idolâtrie, et il préfère l'idolâtrie à l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'ida, sûr que la haine la plus farouche envers les croyants, tu la trouves chez les juifs et chez les associateurs mushrikin. Et sur cette base d'harmonieuse entente, les deux alliés dressèrent leur plan. Les juifs entreprirent de soulever les tribus de la péninsule. Eux d'un côté et Quraysh d'un côté. Les juifs, ils sont allés à Ratafan, dresser Ratafan contre le professeur Salam. Et Ratafan, il a accepté sous le commandement de Uyayn ibn Hasn. Les acceptations augmentèrent et les effectifs de l'armée, ils atteignirent 10 000 hommes. 10 000 hommes. Jamais un nombre n'a été atteint auparavant dans les batailles contre le professeur Salam. 10 000 hommes. Quraysh est sorti à leur tête Abu Sufyan, Ratafan, Uyayna ibn Hasn, Bani Murra, Al-Harith ibn Auf, et Ashja' Mis'ar ibn Rukhayla. Le professeur sallam, toujours vigilant, il a toujours ses éclaireurs, il a pris les manœuvres des juifs et des mushrikins de Quraysh. Il a su qu'ils sont en train d'ameuter les infidèles contre lui, grâce aux éclaireurs, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni, comme d'habitude, il a réuni les compagnons, radiallahu anhum, pour une consultation. Il les a consultés, qu'est-ce qu'on doit faire, comme d'habitude, comme il le fait toujours, qu'est-ce qu'on doit faire. Différentes opinions furent exprimées, et ce fut Salman al-Farisi, radiallahu anhum, qui se leva et déclara, il a dit, envoyé d'Allah, chez nous, c'est-à-dire en Perse, lorsqu'en Perse nous craignions une attaque de cavalerie, nous nous entourions de l'handak, d'une tranchée, on creuse une tranchée. Quand il y a beaucoup de monde qui va nous attaquer, ils vont nous assiéger, on a une ruse, c'est qu'on creuse la tranchée. Et il a dit, creusons donc maintenant une tranchée autour de nous. Et c'est une tactique bien sûr que les Arabes ne connaissaient pas auparavant. Et la proposition, il a obtenu l'unanimité et fut mise en exécution. La position de Médine maintenant. La position de Médine, elle est étonnante. Médine est là. Médine est là aussi. Médine. Elle est située entre ce qu'on appelle trois harrat. Je vais expliquer ce que ça veut dire harrat. Il y a harrat al-Wabara, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Harrat al-Wabara à l'ouest. Harrat al-Waqin à l'est. Il y a une harra au sud. C'est quoi harra? C'est un amoncellement rocheux. Et difficilement accessible. Le piéton, il ne peut pas le franchir qu'avec difficulté. Alors l'armée, il est presque impossible qu'il le franchisse. Parce qu'il y a des pierres pointues et le substrat, et les chevaux et les chameaux ne peuvent pas passer, ne peuvent pas marcher dessus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement, il est protégé, Médine est protégée par ces trois amoncellements rocheux. Un à l'ouest, un à l'est et un au sud. Et là, proche de Médine, il y a les maisons de Bani Qaynuqa. Ils étaient les plus proches de Médine et ils ont trahi le pacte quand ils ont déshabillé la femme musulmane et tué l'un des compagnons. Alors, ils étaient expulsés et ils sont partis soit à Khaybar, soit plus loin au Sham. Les Bani Nadir aussi, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a chassés. Ils ont quitté. Une partie d'eux est allée à Khaybar et une autre partie est allée au Sham qui est au nord. Donc, il n'y a pas de menace d'ici, ni de Bani Nadir. Bani Nadir, c'est ici. Bani Nadir, c'est proche de la Harra du sud. Au nord, il y a Jabal Uhud, la montagne de Uhud, là où a eu lieu la bataille de Uhud, et puis le lac et le confluent des rivières, Wadi al-Aqiq. au sud, à l'ouest, et puis le nord, Oued al-Qanat, la vallée de Qanat, aussi la vallée de l'Aqiq. Et là, c'est Jabal Salah, la montagne de Salah, le mont de Salah, proche de Médine. Et bon, ça veut dire que le sud est protégé, l'est et l'ouest sont protégés. Mais entre le Hara qui se trouve à l'ouest, c'est ça à l'ouest, et le Hara qui se trouve au sud, il y a déjà le mont de l'Asir, une montagne qui fait obstacle aussi au passage, et il y a des champs, il y a beaucoup de champs ici. Il y a beaucoup de champs du côté du sud-est et du côté du sud-ouest. Donc c'est protégé naturellement par les champs de palmiers et par les amoncellements rocheux. Mais il y a une brèche du côté de Bani Qurayda, une ouverture de Bani Qurayda. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert le nord par une tranchée. Le plan, il a dit, nous on va couvrir le nord parce que le nord, c'est au nord où la menace peut arriver. Il a tracé le nord pour que les compagnons creusent la tranchée ici. Et en même temps, il a creusé ici, vers l'ouest. Parce qu'il y a certains passages de cette... l'armée peut passer avec difficulté, mais peut parvenir. Donc pour plus de sécurité, le prophète sallam, il a creusé encore du côté de l'ouest. Il a creusé encore du côté de l'ouest. Et il a campé en bas au pied du mont de Salah pour protéger son dos et pour profiter de la pente et pour voir ce que font les mouchriquines, les coalisés, l'Ahzab, ce que préparent. Donc c'est un endroit stratégique pour lui. Il a campé ici. Il a campé en bas de la montagne de Salah. Donc, c'est la seule menace qui peut venir, c'est celle du sud-est. C'est celle de Bani Qurayda, la seule menace. Et Bani Qurayda, ils ont un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a fait des pactes avec les Juifs. Donc la brèche se trouve du côté de Bani Qurayda. Le nord, comme j'ai dit, il a été protégé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse et son intelligence, il a très bien choisi l'endroit où creuser la tranchée. Il a étudié le terrain. Il est très vigilant, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre l'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que combattant, un vrai combattant. Sallallahu alayhi wa sallam. La tranchée est longue. Vous savez que tout le de l'ouest vers l'est et une partie de nord vers le sud. Elle est longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les compagnons. 10 personnes sur 10 compagnons, il y a un chef et il commence. Et il leur a donné un secteur à creuser. C'est-à-dire, chaque groupe de 10 compagnons, ils creusent une partie. Et le professeur Sallam a fait aussi que la tranchée soit suffisamment large pour que seulement les meilleurs chevaux purs peuvent la franchir. C'est-à-dire, difficilement franchissable. La tranchée, elle est suffisamment large. Et suffisamment profonde pour que celui qui tombe dedans, il ne peut plus remonter, il ne peut plus ressortir. Donc ça, c'est parlant de la profondeur, de la largeur et la longueur, bien sûr, c'est de l'est vers l'ouest et une partie du côté de l'ouest, du nord au sud. L'ouest de Médine, du nord au sud. On commença le chantier. Le Ibn Omar, radiallahu anhu, il avait 15 ans. On sait qu'à la bataille de Uhud, il avait 14 ans. Bon, c'était le début de... Il avait à peine 14 ans. Et là, c'est la fin. Il a presque... au terme de ses 15 ans. Il s'est présenté devant le professeur Sallam pour participer et le professeur Sallam l'accepta, le hadith dans le Bukhari. On commence à sentir, comme j'ai dit, la tranchée est longue. C'est que la tranchée est longue. Et pour ne pas s'ennuyer et garder, bien sûr, la même motivation et la même vigueur, les compagnons, ils rythmaient leur travail en chantant des vers de poèmes. Les premiers vers ont une histoire assez drôle. C'est qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Envoyé d'Allah, je témoigne, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, il vient de rentrer en islam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Quel est ton nom ?» Il a dit « Ju'ayl ». Ju'ayl ? Ju'ayl, vous savez ce que ça veut dire Ju'ayl ? Ça veut dire « petite blatte ». Ça veut dire « petite blatte ». Il a dit « Non, non. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. » Et ceci l'inspira aux compagnons ces vers de poème. Ils disent « Sammahu ba'da ju'aylin amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. » Sammahu ba'da ju'aylin amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. Il a changé son nom Ju'ayl en Amr, et ce jour-là, il a bien aidé ce pauvre homme. Ils ont fait ce... Et les compagnons commençaient à chanter en refrain ce couplet, et le professeur Salam en même temps il répète avec eux, à la fin quand ils disent Amra, ils disent Amra, quand ils disent Zahra, ils disent Zahra. Et ils se mirent également à scander la formule qui avait jadis servi à rythmer la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masjid al-Rasul sallam, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma. اللهم اغفر للأنصار والمهاجر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. C'était ce couplet-là qu'il disait. Oh Allah, il n'y a de bien que celui de l'au-delà, pardonne aux Ansar et aux émigrants. C'est ça le point. Et le prophète sallam aussi, il dit اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, il lui dit الآخرة. Et puis ils disent aussi نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Nous avons donné à Mohammed serment d'être prêt au jihad de notre vivant. Et puis Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, il composa d'autres vers qu'ils commencèrent à chanter. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Seigneur, sans toi, nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône ni prié. Envoie donc la sérénité sur nous, afferme nos pas pour la rencontre. Ceux qui injustes nous ont agressés, un trouble veulent-ils qu'ils soient combattus. Le prophète sallam, il joignait sa voix aux autres, il ne joignait sa voix aux autres qu'à la fin des vers, quand il dit sallayna, laqayna, abayna, et il les aide, sallallahu alayhi wa sallam. Il travaille sans relâche, il porte les pierres, sa chevelure plein de poussière, sa tunique, il les aide sincèrement. Pas comme ce qu'on voit actuellement, quand ils inaugurent un chantier, ils prennent l'appel et puis ils font deux ou trois coups. Non, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personnellement, il les aide, il chante avec eux, il fait pas avec sa modestie, bien qu'il soit le guide de l'humanité et le meilleur des êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque quelqu'un voulait rentrer chez lui, parmi les compagnons, il demande permission auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se fatigue, il dit... Envoyé d'Allah, laisse-moi rentrer chez moi, ou l'a dit pour boire ou manger, ou voir ce qui se passe chez lui à la maison, etc. Et le prophète sallam, il lui autorise. Mais les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Les hypocrites, ils font semblant de travailler, et ils se retirent. Quand ils profitent d'une occasion, d'une distraction, ils se retirent sans demander permission auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux et dit قَدْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ تُصِيبَهُمْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans sourate An-Nur, Allah connaît bien ceux de vous qui s'esquivent en cachette, qu'ils prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre de ne pas succomber aux troubles ou que ne les frappe un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il loua les compagnons, il a dit: innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu inna alladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idha sta'dhanuka li ba'di sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en compagnie, sont en sa compagnie pour une affaire commune, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Ceux qui te demandent permission sont ceux qui croient en Allah et son messager. Ceci est rapporté par Ibn Ishaq et par al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. D'autres hypocrites, ils demandent permission, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent permission, mais juste pour s'enfuir. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent: nos demeures sont sans protection. Nos demeures sont sans protection et on a peur pour nos femmes, on a peur pour nos enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les autorise. Parce qu'il juge l'extérieur. Les musulmans ne jugent que l'extérieur. Il les autorise de partir et de ne pas travailler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça c'est dans surat Ahzab. Dans surat Ahzab, il parle de ce qui s'est passé dans la bataille de l'Ahzab. Vous êtes d'accord? Al-Hashr, c'est Bani Nadir. Surat Al-Imran, il parle de Uhud. Surat Al-Anfal, il parle de Badr. D'accord? يقول الله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant: nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Allah افضحهم سبحانه وتعالى. Il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Et pendant que les compagnons ils creusaient, des fois ils atteignirent des endroits qui sont des rochers que personne ne peut casser. C'est-à-dire ils utilisent leurs ustensiles, leurs pioches, etc. Mais ils ne parviennent pas à les casser. Et selon le hadith de Jabir, Jabir radiallahu anhu, il a dit: nous allons dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà une pierre qui arrête nos travaux. Ça c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Il est rapporté également par Al-Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: attendez, je vais descendre. Et il est descendu sallallahu alayhi wa sallam dans la tranchée, et Jabir radiallahu anhu, il dit, il se leva donc portant une pierre attachée sur son ventre, parce que pour calmer la douleur de la faim, il met une pierre dans son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, eux aussi. Parce que c'était un moment de grandes épreuves, et un moment de famine, et un moment de souffrance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mangé 3 journées entières. 3 journées, il n'a pas mangé, d'après ce qu'a dit Jabir, radiallahu anhu. Et il saisit la pioche, et on frappa la pierre. Cette pierre-là qui bloquait le travail des compagnons. Et la pierre, elle s'est transformée en sable coulant, comme ça, subhanallah. Il y avait beaucoup de miracles durant cette bataille. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un moment de grande épreuve, et il fallait qu'il y ait des miracles pour soutenir, pour raffermir les cœurs des compagnons, radiallahu anhu. Et puis Jabir, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, avec la pierre, avec son ventre, mettant la pierre sur son ventre, et qu'est-ce qu'il a? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé permission, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir. Puis il est allé voir sa femme, Suhayla bint Mas'ud al-Ansariya, radiallahu anha. Et il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrir d'un mal vraiment insupportable, as-tu quelque chose à manger? Et Suhayla radiallahu anha, il a dit: nous n'avons rien, nous n'avons juste une petite quantité d'orge et une chèvrette. Ils égorgèrent la chèvre émoulurent l'orge. Ils placèrent la viande dans la marmite, ils préparèrent la pâte, etc. Puis Jabir, quand il s'apprêta à sortir, sa femme, Suhaila, lui a dit, attends, lui a dit, ne ramène que trois, quatre personnes, ne m'humilie pas devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons qu'une petite chèvrette et juste une petite quantité d'orge. Et il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il murmura au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'oreille. Et il lui dit, envoyé d'Allah, j'ai un modeste repas à vous offrir. On a égorgé une petite chèvre et on a moulu une petite quantité d'orge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, oh gens de la tranchée, Jabir nous invite à un repas, venez tous. 1000 hommes travaillaient dans la tranchée. Jabir, quand il a vu ça, il a couru directement chez sa femme. Il a dit, attention, ce n'est pas 3 ou 4 personnes, c'est tous ceux qui travaillent dans la tranchée. Et Suhaila radiallahu anha commence à lui reprocher, il a dit, malheur sur toi, pourquoi tu lui as pas dit ceci, il a dit, si je lui ai dit, j'ai dit à l'envoyer d'Allah qu'on a juste une chèvrette et juste une petite quantité d'orge. Et puis Suhaila, quand il a entendu ceci, il s'est calmé, il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam, puisqu'il connaît la quantité de notre repas, la quantité de notre repas, et qu'il a appelé tout le monde, Allah, il est plus connaisseur, ainsi que son envoyé. Que par conviction totale d'une femme, il a dit que quelque chose de spécial, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agit pas comme ça. Il sait ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita, et il a dit, rentrez, dit l'homme, comme ça, il a dit, rentrez sans vous bousculer. Et puis il se mit à couper le pain en morceaux, et il a mis une toile sur la marmite, et une toile sur le four où se préparait le pain. Et il sort le pain et il met la viande dans le pain et il donne aux compagnons. Et il répète la même opération jusqu'à ce que tout le monde a mangé. Subhanallah, Allah, il a donné la baraka dans cette viande et il a donné la baraka dans le pain. Et il a dit l'homme. Hadith authentique de Jabir radiallahu anhu, dans le Bukhari et dans le Muslim. 1000 hommes, subhanallah. Et ce qu'il y a dans la marmite n'a pas changé. Et le pain est resté jusqu'à ce que Suhaila radiallahu anha, il a donné à ses voisins, à tout le monde qui l'entourait. La baraka, il est resté dans cette viande-là et dans ce pain-là. Donc c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre pierre, parce que chaque fois il creuse, puis il trouve un obstacle. Une autre pierre, très dur les arrêta et ils veulent la soulever cette pierre, ils veulent la creuser mais ils n'ont pas parvenu à la creuser et le danger il s'approche parce que la moindre faille, le moindre endroit qui n'est pas vraiment bien creusé, les kuffars ils peuvent le franchir. Et ils appelèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit on va consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont appelé, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une pioche. Et cette version, elle est authentique, elle se trouve, l'imam al-Haythami, il la rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une pioche, puis d'un coup comme ça, selon des versions, c'était Salman qui était en train d'essayer de creuser, de perforer cette roche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans la tranchée, et puis il a pris la pioche, et puis il a dit Bismillah, et puis d'un coup, le tiers de ce rocher il s'est fondu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria Allahu Akbar, Allahu Akbar sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les trésors de Sham et je vois les palais rouges de Sham, des Romains. Et puis le deuxième coup, il a fait un deuxième coup, puis il s'écria sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert la Perse et je suis en train de voir les blancs palais de Khosrowès, de Kisra. Et le deuxième tiers de la roche s'est fondu. Et puis le troisième coup, le prophète s'est écrit, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert le Yémen, et je vois les portes de Sana'a, Sana'a, une ville du Yémen, depuis l'endroit où je suis. Durant ces coups-là, il voit les trésors, Allah lui ouvre les de Kisra et de Rome. Les compagnons sont étonnés. Ils sont étonnés de dire Allah m'a ouvert le trésor de Kisra, Allah m'a ouvert le trésor de Rome, Allah m'a ouvert le trésor du Yémen, alors qu'ils sont assiégés. Ils sont assiégés, ils sont juste une minorité, et tous les tribus sont contre eux, et leurs femmes ne sont pas en sécurité. Comment le professeur Salim, il dit ceci dans une situation pareille? Comment il dit ceci dans une situation pareille? Allah subhanahu wa ta'ala lui montre, et le professeur Salim est convaincu. C'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré cette trésor à cet endroit-là pour raffermir davantage les compagnons, pour leur dire qu'on a l'avenir devant nous et qu'on va être, on va sortir victorieux durant cette bataille et on va aller loin jusqu'à conquérir les Perses, les Romains et le Yémen. La bataille, comme le professeur Salim a dit, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert les trésors des Romains, de Rome, la bataille de l'Yarmouk. La bataille de l'Yarmouk, il a eu lieu à l'année 14 de l'Hégire. Donc, 9 ans, 10 ans après la bataille de l'Khandaq. La bataille de l'Yarmouk, les trésors, c'était Omar ibn al-Khattab qui l'a conquis. Et la bataille de l'Qadisiyya, c'était les trésors de Khosroès. Donc, 9 ans, 10 ans après. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est accomplie. Ce qu'il a dit, il s'est réalisé. Qui imagine que des gens assiégés de partout par les Arabes vont conquérir la Perse et le Romain? Qui imagine ça? Mais l'imam, subhanallah, conviction totale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, ses promesses, ce qu'il a dit, va se réaliser. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment Allah il transforme la balance, le rapport de force, comment il le transforme par l'imam. Les croyants ont cru en cette promesse. Les hypocrites, certains commençaient à rire, ils ont dit, c'est vraiment étonnant. L'un de nous n'ose même pas faire ses besoins naturels en sécurité, et lui, il est en train de nous promettre qu'Esra et Rome. Il nous a promis que des promesses, il nous a donné que des promesses trompeuse. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi surat al-Ahzab. Wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager, nous nous ont promis que tromperie. Surat al-Ahzab, verset 12. À peine la tranchée était-elle achevée que l'on apprit que l'armée de Quraysh s'approchait de Médine. Ils ont campé près de Uhud. Quraysh, il a campé ici, près de Uhud. Uhud est là, au nord. Quraysh ici, Ghatafan, et puis Bani Murra, Kinana, et les autres tribus, au nord. Comme ça. Ils ont campé près de Uhud, au nord-ouest. Parce que le nord, le sud, l'est, l'ouest, au nord-ouest. Quraysh a envoyé ses éclaireurs, et à leur grande stupéfaction, ils découvrirent qu'un large fossé se creusait devant eux, avec en face une armée d'archers. Le professeur Abou Soufiane, il allait s'assurer et s'approcha de la tranchée, et quand il a vu la tranchée, il a dit « Hadhi hilatun la ta'arifu al-arab ». Ceci est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas, ils doivent prendre ça d'ailleurs. Puis il a envoyé au professeur sallam, il a dit « As-tu peur ?» Et le professeur sallam a répondu, il a dit « La guerre est ruse ». Harb khuda. Les chefs des armées, des mécréants, sont tombés dans la tourmente et ils se consultèrent. Il n'y a que deux solutions. La première, c'était essayer d'occuper les musulmans vers un endroit de tranchée et essayer de passer par d'autres endroits. D'accord ? De les occuper par endroits et essayer de passer par d'autres endroits. La deuxième, c'était de les occuper au nord et d'essayer de passer par le nord, le sud-est. C'est-à-dire par qui ? Par Bani Qurayda. Par Bani Qurayda. Donc c'était l'une des deux solutions à choisir. Après réflexion, Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le meilleur moyen, plus pratique, plus facile, c'était d'essayer de persuader Bani Qurayda pour rompre le pacte avec Mohammed. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui? il a Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab il faisait partie de Ben Nadir qui était expulsé qui après a habité à Khaybar. Huyay ibn Akhtab est juif, les Bani Qurayza sont des juifs. Abu Sufyan l'a dit, va les voir pour négocier et pour qu'ils nous laissent passer par le sud-est, c'est-à-dire pour qu'ils nous laissent passer au sud-est, comme ça on peut rentrer facilement. On va les occuper au nord et puis on rentre nous à Médine facilement par Bani Qurayza. Huyay, il se rendit donc à la forteresse de Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayza. Les juifs, ils habitaient dans des forteresses. Et c'est le chef, ce chef-là, Ka'b ibn Asad, c'est lui qui a fait le pacte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ka'b, Huyay ibn Akhtab commença à appeler Ka'b ibn Asad. Ka'b ibn Asad refusa de lui ouvrir. La porte. Ka'b ibn Asad, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés le voir pour vraiment confirmer le pacte, pour que la brèche ne soit pas ouverte au sud-est. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà parlé, il a dit, est-ce que tu es encore sur le pacte? Et là, Ka'b ibn Asad, quand il a vu Huyay ibn Akhtab, il sait ce qu'il a voulu. Il a su qu'il a voulu, qu'il rend le pacte, etc. Il n'a pas voulu lui parler, il n'a pas voulu lui ouvrir la porte. Et Huyay ibn Akhtab, avec son éloquence et son ingéniosité, il a essayé de saper, si vous voulez, la résistance de Ka'b ibn Asad. Et il l'appela. Il a dit, malheur à toi Ka'b, laisse-moi au moins rentrer. Et discutons un peu. Ka'b, il a dit, malheur à toi, je ne t'ouvre pas la porte. Je ne t'ouvre pas, tu es un porteur de mauvais sort. Parce que déjà, c'est lui qui était à l'origine de l'expulsion de Bani Nadir. Il a dit, tu es un porteur de mauvais sort, je ne parle pas avec toi. J'ai fait un pacte, il a dit, j'ai fait un pacte avec Mohammed, et je n'ai pas l'intention de rompre ce qu'il y a entre nous. Je ne connais de lui que fidélité et sincérité. Et Huyay ibn Akhtab, il insista, il a dit, laisse-moi au moins entrer et tout. Et puis Ka'b ibn Asad, il a refusé. Puis Huyay ibn Akhtab lui a dit, ah, tu ne veux pas m'inviter parce qu'il te répugne de partager le repas avec toi. Il a voulu dire de lui qu'il est avare. Et puis bon, les Juifs, ils avaient certaines valeurs des Arabes. Ils vivaient avec les Arabes, surtout les Mecca, Medina et tout, et l'hospitalité et tout. Et il fut tellement irrité qu'il lui ouvrit la porte. Il n'a pas voulu que les Arabes disent de lui que c'est un avare, etc. Et puis, il lui a ouvert la porte. Et Huyay ibn Akhtab lui a dit par Allah, lui dit Ka'b, il a dit, malheur à toi, il a dit, je t'apporte tout Quraysh, je t'apporte tout Bani Ratafa, je t'apporte Fazara, ils sont tous avec moi, je t'apporte la gloire. Il commença à faire désirer Ka'b ibn Asad de rompre le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je t'ai apporté la force de Kinana, je t'ai apporté la force de Quraysh, je t'ai apporté plus de 10 000 hommes, ils sont là. Et ils m'ont fait serment qu'ils ne retourneront pas chez eux que s'ils anéantissent Mohammed et ses compagnons. Je t'ai apporté la gloire. Et Ka'b ibn Asad, il a dit non. Il a dit, tu ne m'as apporté que de fausses promesses. Il a dit, tu vas m'apporter la honte éternelle. Rompre le pacte, ce n'est pas bon. Tu m'as apporté la honte éternelle, tu m'as apporté un nuage, sans eau qui ne contient que du tonnerre et de l'éclair. J'ai'tani bijihamin, wa bijihamin qad hiraqa ma'u, fa huwa yar'udu wa yabraq. Un nuage sans eau. Le nuage d'habitude, mais là c'est une fausse promesse. Un nuage sans eau, mais il tonne, et il donne l'éclair, il donne le tonnerre, mais il n'y a rien dedans. Et Ka'b ibn Huyay ibn Akhtab commença à insista pour que, avec son éloquence, pour mettre Ka'b ibn Asad de son clan et pour qu'il leur laisse le passage vers Médine. commence à lui parler des avantages qu'il va tirer, commence à lui parler que cette religion qui nous menaçait va être anéantie, que c'est le judaïsme qui va prendre le dessus. Il insista jusqu'à ce que Ka'b ibn Asad accepta. Puis on ramena le pacte. Le pacte a été écrit entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ka'b ibn Asad. Et Huyay a déchiré ce pacte-là. Ce pacte-là fut rompu. Il a fini par céder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, toujours il envoie les éclaireurs pour... il voit toujours ces éclaireurs dans la ville, il voit ce qui se passe dans la ville, dans la forteresse des femmes, les enfants, et tout l'entourage. Et il les a envoyés, et puis il a eu le sentiment que quelque chose se passait chez Bani Qurayda, quelque chose d'anormal. Donc il fit demander qui? Il fit demander les deux Sa'd, Sa'd ibn Ubada ou Sa'd ibn Mu'az. L'un est le chef de Aus et l'autre est le chef de Khazraj. Il leur a dit, allez voir ce qui se passe chez Bani Qurayda. S'ils n'ont pas rompu le pacte, quand vous venez, vous le dites en termes clairs. S'ils ont rompu le pacte, dites-le, mais sous forme subtile qui me soit compréhensible. Ne le dites pas clairement. Les deux Sa'd sont partis. À peine ils se sont rapprochés de la forteresse de Bani Qurayda qu'ils furent accueillis par les insultes, les injures des Juifs. Et puis l'un des Sa'd, il a dit, malheur à vous, revenez. On a fait l'envoyé d'Allah, il a fait un pacte avec vous. Ils ont dit, quel envoyé d'Allah, de quel envoyé d'Allah tu parles et de quel pacte tu parles? Nous sommes au courant de rien. Et Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada, commença à les insulter. Comme ils insultent les deux Sa'd, lui il a commencé à répliquer, à répondre. Et puis l'autre Sa'd, Sa'd ibn Mu'ad, il lui a dit, il ne faut pas perdre le temps avec eux, parce que ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas un simple échange d'insultes. Ce qu'il y a entre nous, c'est grave. Et ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, et puis ils ont dit, ô envoyé d'Allah, Adl wal-Qara. La forme subtile. Ils ont dit, Adl wal-Qara. Qui est Adl wal-Qara? C'est les deux tribus qui ont trahi les compagnons lors de la Ghazwat al-Raji'a. Ceux qui ont livré Khubayb et ceux qui ont livré d'autres compagnons à la tribu de Hudayl. Les deux petites tribus qui ont dit au prophète sallam que ce sont des musulmans et qu'il faut qu'il envoie avec eux des gens connaisseurs, des gens de science pour leur apprendre le Coran, et ils les ont trahis. La grande trahison. Et le prophète sallam, il a compris. Il a compris que c'est une grande trahison. Puis il a dit, quand il a vu ça, il a voulu raffermir les compagnons. Il a dit, Allahu Akbar, abshiru bin Nasr. Et la suite.